Dans le livre Good Services, Lou Down partage 15 principes clés pour designer un bon service. On les analyse et explore ensemble tout de suite dans Parlons Design. Parlons Design saison 7 est sponsorisé par Z4S Theory, le studio qui vous accompagne dans la concrétisation de vos idées d'application SaaS. Salut, c'est Romain Pagena, bienvenue dans Parlons Design pour parler du service design et notamment voilà, des 15 principes partagés par Lou Down dans son service Good Services. Lou Down, c'est l'ancienne design director du gouvernement britannique. Globalement, l'équipe design du gouvernement britannique qui a été assez leader dans les bonnes pratiques de services gouvernementaux en ligne. Ils ont été très tôt dans la systématisation du design, le renouvellement des services. C'est un acteur majeur qui partage énormément de choses, même en ligne, voilà, de bonnes pratiques, de bonnes ressources. Et donc, Lou Down a fait partie de ce mouvement. En 2014, elle a même lancé la partie service design au sein du gouvernement britannique. Et en 2020, elle a sorti le livre dont on va parler ensemble aujourd'hui, Good Services, un livre hyper concis, hyper agréable à lire, que je ne peux que vous recommander, le lien sera en description, très visuel aussi, avec plein de bons conseils pour designer des bons services, comme son nom l'indique. Forcément, elle a une approche très orientée sur les services gouvernementaux. Pour autant, même si vous ne travaillez pas dans ce domaine-là, il y a énormément de principes qu'on peut réutiliser, reprendre en place dans tout plein d'autres domaines, et notamment dans le domaine privé. Donc, il est hyper intéressant pour tous. Finalement, les services publics, c'est quelque chose qui nous concerne tous d'une certaine façon. Donc, de toute façon, c'est une culture hyper intéressante à récupérer. Donc, j'ai adoré ce livre. Ça faisait un petit moment que je voulais vous en faire un épisode. Et ça va être aujourd'hui le moment. On va analyser ces 15 principes-là. Alors, forcément, on va rester plus ou moins en surface. Sinon, ça nous ferait un podcast de 2 heures. Et après, bien sûr, si vous l'avez closé, le livre est dispo. Alors, commençons tout de suite avec le premier principe pour un bon service, c'est qu'il doit être simple à trouver. Ça part d'un constat très simple, c'est qu'en fait, c'est Google la page d'accueil de votre service. Que ce soit un service public ou pas, Google est probablement la page d'accueil de votre service. Donc, il doit être simple à trouver. Et comment on fait pour qu'un service soit simple à trouver? En fait, c'est qu'un bon nom, c'est pas un nom justement, mais c'est plutôt un verbe. Un bon nom de service, c'est le verbe de à quoi ça sert, qu'est-ce que ça permet de réaliser. Et si on utilise justement ces verbes d'action dans la création du nom d'un service, tout d'un coup, la recherche naturellement va plus facilement emmener vers ce service-là. Parce que typiquement, quelqu'un qui voudrait passer son permis de conduire va pouvoir taper ce genre de requête ou obtenir son permis de conduire, etc., etc. Ou obtenir le droit de rouler si jamais il n'a pas connaissance du fonctionnement du pays, par exemple. Et donc, en utilisant des verbes, on va venir correspondre à quelle est la volonté finale, quel est l'objectif du client, enfin de l'utilisateur. Donc, pour qu'un bon service soit un bon service, il doit être simple à trouver, et donc on doit pouvoir le trouver de manière naturelle, principalement les moteurs de recherche. Le deuxième principe, c'est qu'un service doit expliquer son propre objectif. Et s'auto-expliquer, ça veut dire quoi, qu'est-ce que c'est, pourquoi cette chose-là existe, comment elle fonctionne et pour qui elle doit fonctionner, à qui ce service est adapté. L'idée, c'est que l'utilisateur doit pouvoir identifier directement est-ce qu'il est au bon endroit, est-ce que cet endroit est adapté à lui, et est-ce que cet endroit répond à ses besoins. Et finalement, dans ce cas-là, le produit, forcément, est le service, et le service doit être en partie son propre marketing. Il doit s'auto-expliquer pour permettre à n'importe qui le découvre de comprendre si ce service lui est adapté et correspond à son besoin, correspond à son objectif du moment ou pas. Le troisième principe, c'est que un bon service doit établir les attentes de l'utilisateur à l'égard du service. Un utilisateur qui va arriver sur n'importe quel service va avoir ses attentes de base. Si on revient dans un secteur plus privé, quelqu'un qui découvrirait un nouveau tableur va avoir les attentes du fonctionnement d'un tableur normal. Donc il faut que tout service corresponde à ces attentes de base de l'utilisateur qui vont lui permettre de se ressentir chez lui et d'avoir ce qu'il attend. Et derrière, il va y avoir tout ce qui va être plus spécifique au produit et au service en question, qui va pouvoir se rajouter à tout ça. Et il faudra être le plus transparent possible là-dessus aussi sur quel engagement ça va demander à l'utilisateur de ce service, quel coût potentiellement ça va lui demander en plus, et permettre à l'utilisateur qui vient de découvrir le service d'avoir une compréhension fine et claire de quelles sont les spécificités de ce service-là. Il ne faut pas hésiter à être honnête pour proposer un bon service finalement. Parce que le pire, ce serait d'essayer de cacher la vérité sur le service longtemps à l'utilisateur pour qu'il s'en rende compte qu'une fois que c'est trop tard, une fois qu'il est trop engagé, une fois qu'il a perdu du temps avec le service. La quatrième bonne pratique, la quatrième recommandation, c'est qu'un un service doit permettre à chacun de compléter l'objectif pour lequel il est venu. Voilà, c'est la base, c'est très clair, c'est très simple, mais ça peut souvent être oublié avec des dark patterns souhaités ou non souhaités, mais qui vont faire tourner l'utilisateur dans plusieurs demandes, dans des mails à recevoir, dans des demandes à effectuer afin de pouvoir compléter son objectif, alors que lui, initialement, était juste venu pour obtenir une information potentiellement. Donc pour votre utilisateur, dans sa tête, globalement, le service, c'est comment il atteint son objectif. Lui, il s'en fout que ce soit un service en particulier, il a juste un objectif en tête, il veut l'atteindre et il va utiliser votre service pour l'atteindre. Donc vous, en tant que designer, vous devez prendre en compte le parcours complet qui va affecter l'utilisateur. Même s'il y a des procédures internes de vérification, d'analyse, ça fait partie de notre rôle en tant que designer de prendre tout ça en compte. Parce que notre mission est de permettre à l'utilisateur qui a découvert notre service d'atteindre son objectif. Donc voilà, il faut, même si voilà, on a forcément cette facilité à dire « Ah ben ça ne nous concerne pas, c'est pas directement l'interface, c'est le service dans son ensemble, mais c'est pas chez nous », ben en fait ça fait partie du service qu'on donne au client. Donc il faut forcément le prendre en compte. La cinquième recommandation, c'est de proposer une expérience familière. Forcément, les utilisateurs sont habitués à utiliser d'autres services. Ils passent d'ailleurs largement la majorité de leur temps hors de votre service à vous et avec d'autres services. Donc, il faut baser la conception de notre parcours sur ce à quoi les utilisateurs sont habitués. Le familier est clairement mieux que l'unique dans la plupart des cas de design de service et même de design d'interface de manière un peu plus précise. Et donc, faut surtout pas hésiter à proposer une expérience familière. Sixième conseil, faire attention que les services ne nécessitent pas de connaissances préalables. La majorité des utilisateurs qui vont utiliser votre service l'utilisent pour la première fois. Et donc, ils ont potentiellement peu de connaissances sur ce que ça propose, sur comment ça fonctionne, sur quelles informations sont nécessaires. Et il faut faire le maximum pour apporter cette information dès que nécessaire, soit upfront, soit à la demande de l'utilisateur, pouvoir le conseiller, l'accompagner. Mais il faut toujours prendre en compte ça, que potentiellement les utilisateurs ne peuvent pas avoir certaines informations que vous considérez qu'ils ont. Donc, maximiser l'accompagnement pour gérer les gens qui n'ont pas ces connaissances préalables. Conseil numéro 7, être agnostique des structures organisationnelles. Une organisation silotée va souvent produire des services silotés. C'est le cas dans la fonction publique, mais c'est également le cas dans les entreprises privées. Dès que on va rendre ces silos visibles à l'utilisateur final, on va souvent complexifier son expérience et la rendre assez incohérente pour lui. Donc, en tant que designer, on a cette responsabilité de gommer au maximum ces silos au profit de l'utilisateur. On ne travaille pas juste pour notre silo, mais on travaille pour le bien de l'utilisateur qui veut accomplir son objectif à travers notre service. Donc, il faut essayer d'abstraire un maximum et de se détacher de l'organisation interne pour proposer un service agnostique de tout ça, puisque ça ne concerne pas l'utilisateur final. On approche de la moitié avec le huitième principe qui est qu'un bon service doit demander le minimum d'étapes à l'utilisateur. Ça ne veut pas dire réduire et tout mettre en une seule étape, non. Ça veut dire bien gérer le tempo des différentes étapes et des différentes demandes. Ne pas surcharger l'utilisateur en lui demandant tout d'un coup ou en séparant tout en plein de services variés en trop d'étapes. C'est trouver le bon nombre d'étapes qui permet à l'utilisateur d'avoir une charge mentale pas trop élevée au fur et à mesure du parcours, pas trop réduite à la fois, et qui lui permette d'être dans un état de concentration non abusive, de potentiel de pouvoir quitter et revenir sur l'expérience sans perdre ce qu'il a fait dans le passé, etc., etc. Donc un parcours se considère de bout en bout. Et trouver le bon nombre d'étapes, le bon niveau de difficulté est finalement important. Trop bas, bah, ça peut rendre finalement l'expérience trop complexe par rapport à ce qu'elle demande, trop en termes de difficulté, et ça peut rendre le parcours tout à fait invivable. Voilà, on a fait la moitié des principes de Good Services par Loudon. On va faire un petit interlude pour vous parler rapidement du sponsor de cet épisode, usertesting.com, la solution de collecte de retour utilisateur et d'insight client. User testing, ça vous permet de comprendre les besoins de vos audiences et les irritants présents dans vos parcours utilisateurs. Forcément, pour créer un bon service, bah, c'est un allié de choix qui vous permettra de comprendre ce dont vos utilisateurs et clients ont besoin. Vous pourrez alors prendre les meilleures décisions pour vos services. Retour à nos principes de Good Services. Il nous en reste plus que 6 et ils sont très intéressants. Il y en a un avec lequel vous allez être très familier et c'est le 9e principe, être consistant. Les canaux entre eux doivent être consistants, qu'on utilise une interface web, des mails, du téléphone, une lettre papier ou je ne sais quel autre support. Il est hyper important que le vocabulaire reste consistant, que l'aspect visuel reste consistant, que le parcours et la démarche restent consistantes. Pourquoi ? Parce que bah, les bons services sont aussi forts que leur maillon le plus faible. Vous pouvez avoir une excellente expérience web, une excellente expérience téléphonique, mais si l'expérience mail est catastrophique au milieu, parce que bah, en fait, ils arrivent une fois sur deux où l'information n'est pas du tout claire, c'est ça qui va venir bloquer votre utilisateur à accomplir son objectif sereinement grâce à votre service. Donc, il faut faire attention à cette consistance et extrêmement importante, parce que la consistance crée aussi de la confiance, justement, et crée de la compréhension. Donc, c'est un prérequis pour pouvoir créer un bon service que d'être consistant. On atteint la dizaine avec le 10e principe, qui est, voilà, encore une fois, applicable non pas seulement au service public, hein, mais je pense au service design en général, c'est qu'un bon service ne doit pas donner d'impasse à l'utilisateur. Une réponse doit toujours être donnée. Dans l'idéal, ça doit être une solution de contournement. Vous êtes bloqué à telle étape, voici la raison, voici comment vous pouvez faire pour y remédier. Ça, vraiment, c'est la solution idéale. Et il y a plein de choses, autant dans le public que dans le privé, qui peut être concernées par ça, hein. Mais la demande d'un numéro de téléphone pour pouvoir s'inscrire, bah, certaines personnes pourraient ne pas avoir de numéro de téléphone. Le changement d'une information. L'incohérence, typiquement, je sais pas, le service pourrait être réservé aux adultes, bah comment on fait s'il y a un enfant qui essaye de s'inscrire dessus, comment on lui explique, etc., etc. Donc, ne pas avoir d'impasse, c'est toujours une bonne pratique, en tout cas, expliquer le pourquoi des impasses, et qui évite, bah, aux personnes de créer une frustration en se retrouvant bloqué sans pouvoir en comprendre la raison, sans pouvoir comprendre comment remédier à ça. Donc voilà, c'est un bon principe de design, je dirais, au global, hein, mais toujours donner de l'indication à l'utilisateur lorsqu'il est bloqué pour qu'il puisse se débloquer finalement par lui-même et ne pas être frustré. Le 11e principe, c'est qu'un bon service doit être utilisable par tous, que ce soit des handicaps du quotidien ou des handicaps contextuels, parce que il y a beaucoup de bruit, parce que il y a un mauvais réseau, parce que il y a énormément de soleil et la lisibilité est complexe. Bref, énormément de choses dans le monde font que vos utilisateurs ne seront jamais dans un environnement idéal, dans des conditions idéales pour pouvoir l'utiliser. Et donc, il faut essayer de prendre un maximum en compte tous ces facteurs-là quand on crée un service public, d'autant plus, mais même un service privé, il n'y a pas de raison. L'ensemble de vos utilisateurs doivent pouvoir bénéficier au mieux de vos services. Et donc, on vous recommande de prendre en compte au maximum tous ces cas-là, en proposant les solutions adaptées. 12e principe, un bon service doit encourager les meilleurs comportements. Dans le livre, elle donne un super exemple, notamment sur la mesure du succès d'un service, où certaines mesures, finalement, peuvent être accomplies avec succès, mais pour de mauvaises raisons. Elle donne notamment un exemple dans le système médical britannique où ils avaient mis un temps de réponse en 48 heures pour certains types. Et en fait, en effet, bah, le temps de réponse était bon, mais la réponse qui était donnée derrière était mauvaise. Et du coup, on avait une KPI qui, en soi, était atteinte, était bonne, et était, voilà, satisfaisante, mais qui, en fait, pour l'utilisateur final, proposait un mauvais service. Parce que certes, il avait une réponse rapidement, mais il n'avait pas la qualité de service attendue derrière. Et donc, il n'avait pas atteint son objectif pour autant derrière. Donc, tous les KPI de mesure que vous devez mettre en place doivent mesurer l'impact positif potentiel de votre service, mais aussi les potentiels risques et les potentiels downsides qui y sont liés. Il faut toujours garder en tête l'objectif final de l'ensemble du service. Et c'est ça que l'on mesure. Est-ce que le service permet à l'utilisateur d'atteindre son objectif final? Certaines informations peuvent tromper, il faut s'en méfier, et il faut encourager à la fois les meilleurs comportements pour les utilisateurs, mais aussi en interne, justement pour éviter que l'on finisse à mesurer les mauvaises choses et à avoir l'impression de la mission accomplie, alors qu'en fait, c'est juste caché derrière de mauvaises métriques. On approche de la fin, il ne reste plus que deux principes, et on va attaquer avec le 14e, qui est un bon service doit clairement expliquer pourquoi une décision est faite. La transparence et la communication des décisions effectuées par le service sont clés pour continuer à garder cette relation de confiance et cette explication. Et donc, globalement, voilà, hein, la transparence, c'est à peu près toujours une bonne chose, sauf dans certains cas très spécifiques de sécurité, de protection de la donnée. Mais la transparence, par défaut, est la chose à favoriser. Enfin, on va pouvoir terminer avec le 15e principe, que je trouve absolument simple, mais génial, c'est qu'un bon service doit donner un accès simple à de l'assistance humaine directe. En effet, c'est la porte de secours qui parfois est nécessaire dans certaines situations. Dans un monde idéal, vos utilisateurs n'auraient pas besoin parce que le service serait tellement bien conçu que ça ne poserait jamais de problème et ça n'essaierait jamais une assistance humaine. La réalité est bien différente. Il y a plein de situations qui peuvent demander un déblocage humain. Et cacher les informations de contact, que ce soit le mail ou le numéro de téléphone, extrêmement loin, derrière extrêmement de contenu, va toujours être réduire le taux de contact, mais surtout augmenter la frustration des différents clients et les mettre dans une posture aussi de méfiance vis-à-vis du service. Et donc donner un accès simple à l'assistance humaine en termes de qualité de design est toujours une excellente chose à faire. Voilà, j'espère que ce podcast et ses 15 principes vous auront plu. Ça doit faire beaucoup, beaucoup de contenu. J'ai même en préparant ce podcast, je me suis dit waouh, là on a du contenu aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu tout de même. C'est vraiment un excellent livre. Il m'a bien marqué parce qu'il est bien organisé, il est très vivant, il donne beaucoup envie d'avancer, il est beau en plus. Et voilà, et ces conseils sont hyper intéressants. Bien évidemment, dans le livre, il va beaucoup plus dans le détail avec des exemples très concrets, des conseils aussi bien plus précis. Donc je ne peux que vous le recommander, ça vous emmènera bien plus en profondeur dans ce domaine-là. Le lien de pour l'acheter quoi sera en note du podcast, et c'est un lien Amazon sponsorisé, donc si vous l'achetez à travers ce lien là moi je toucherai une petite part et ça fait aucun surcoût pour vous, donc n'hésitez pas si vous voulez soutenir le podcast. Et bien évidemment, si vous voulez soutenir le podcast, bah, il faut également s'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu. Je sais pas vraiment de quoi on va discuter encore. Voilà, un épisode toutes les semaines avec Parlons Design, vous connaissez. Salut. Parlons Design. Parlons Design. Parlons Design.